记吧。
Un an après, jour pour jour, après le tsunami, donc, et l'accident nucléaire de Fukushima qui ont secoué le Japon, nous faisons le bilan de la situation sur place et essayons de percevoir si des leçons ont été tirées de cette catastrophe avec nos invités. Thierry Charles, directeur général adjoint de l'IRSN, l'Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire. Vous êtes en charge de la sûreté des installations et des systèmes nucléaires français. En face de vous, Bernard Laponche, polytechnicien, docteur en sciences physiques des réacteurs nucléaires, expert en politique et maîtrise de l'énergie et membre de l'association Global Chance. Mais tout de suite, pour bien comprendre, messieurs, que le traumatisme subi par le Japon va durer des années, voire des décennies, nous sommes en ligne avec Reiko Hasegawa, en direct de Tokyo, au Japon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Vous travaillez sur le projet DEVAST, qui est l'un des premiers projets à étudier les conséquences sociales et économiques du tsunami et de l'accident nucléaire de Fukushima. Alors, votre travail sous forme d'enquête va consister à aller à la rencontre des habitants des villes touchées par ces deux catastrophes. Alors, le travail est colossal hein, parce qu'il y a énormément de victimes.
Oui, tout à fait. Il y a en fait aujourd'hui, il y a encore plus de 300 000 personnes déplacées et la reconstruction a juste commencé. Mais pour les déplacés, à cause de la suite de l'accident de Fukushima, ils ne peuvent pas encore commencer la reconstruction justement parce qu'ils ne peuvent pas encore retourner à leur village.
Alors justement, c'est ce qui va être l'objet de votre étude, hein, c'est qu'il faut bien distinguer les victimes du tsunami d'une part et les victimes de l'accident nucléaire de Fukushima parce que les conséquences ne sont pas les mêmes.
Tout à fait, parce qu'en fait, pour les déplacés suite de l'accident de Fukushima, ils ne peuvent pas retourner à leur ville d'origine. Par contre, dans une ville frappée par le tsunami, les déplacés ont juste commencé à y retourner, mais il y a toujours beaucoup de déplacés qui habitent dans des maisons préfabriquées.
Qu'est-ce que vous allez étudier en particulier?
Alors, en fait, on va regarder le chaîne d'impact qui commence par les réponses immédiates après la catastrophe, et puis on va regarder aussi les impacts socio-économiques et sur le long terme, sur les sociétés japonaises.
Par exemple?
Alors, par exemple, souvent dans les villes frappées par le tsunami, leur industrie a été détruite. Le tsunami a détruit aussi de l'emploi. Donc, il y a beaucoup de problèmes de chômage, il y a le problème de dépopulation. Ça veut dire que beaucoup des gens sont déplacés ou partis de leur ville. La ville a perdu vraiment beaucoup de population. Par exemple, la ville que j'ai visitée avant-hier, ils ont perdu au moins 30% de la population, même aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions qui se posent là. Et aussi, il y a les impacts sociaux. Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de séparation des familles. Et aussi des destructions de communautés ou réseaux sociaux. Et aussi le système de la santé ou de l'éducation. Les écoles ont été détruites aussi par le tsunami. Donc la ville ne fonctionne pas tout à fait. C'est ça la situation en ce moment. Et en fait, pour le cas de l'accident de Fukushima, il faut ajouter aussi des impacts psychologiques à la population. Ça veut dire que la situation ressemble beaucoup à celle de réfugiés, en fait. Ils sont très isolés et discriminés parfois, en fait, parce que la population locale a peur que les déplacés sont contaminés, par exemple, par radiation. Donc, ils se sont isolés. Il y a beaucoup de traumatismes parmi les déplacés.
Merci, Reiko Hasegawa. Et si cette enquête vous intéresse, je vous signale que vous pouvez la suivre en direct sur le site internet www.devast-projet.org. Alors, Thierry Charles, on comprend bien à travers ces propos hein, qu'un accident nucléaire a des conséquences vraiment particulières. Tout d'abord parce qu'elles sont extrêmement longues. Hein, et contrairement aux victimes du tsunami qui commencent à revenir dans leur village, celles qui habitaient dans la zone contaminée par la radioactivité ne pourront, on peut presque dire, jamais rentrer chez eux.
Mais ça va dépendre de la contamination qu'il y a sur les terrains concernés, des actions qui pourraient être mises en œuvre pour les limiter par la suite. Donc c'est pour ça que dans la démarche de sûreté, bien sûr, la démarche de base, c'est de tout faire pour que ça arrive pas. et malgré tout ça, de définir ce qu'il y a à faire s'il y avait un accident. Donc, dans ce domaine-là, quand il y a un accident, une des premières mesures, c'est d'arriver à cartographier la contamination des zones environnantes pour discriminer celles dans lesquelles il faut éloigner les populations, pour éviter qu'elles prennent des doses inutiles.
Oui, on comprend bien ce qu'on peut faire, mais ce que je veux dire, c'est que ça va durer quoi, des dizaines, des milliers d'années ?
Ah ben, des dizaines d'années, c'est clair, suivant la contamination des terrains, bien entendu.
Alors Bernard Laponche, la question que l'on se pose, c'est est-ce que l'énergie nucléaire mérite une telle prise de risque ?
Voilà, parce que je reviens rapidement sur la formule imaginer l'imaginable. Alors sur ce qui s'est passé à Fukushima, c'est pas du tout de l'imaginable.
Non, imaginez l'inimaginable.
Oui, l'inimaginable. Alors, c'est pas inimaginable, puisque la perte de refroidissement d'un réacteur, c'est un accident qui a été étudié 1000 fois, qui a même un nom, LOCA, Loss of Coolant Accident, qui peut être causé par différentes causes, en particulier une inondation et une tempête qui casse le réseau. Ça, ça se passe souvent, puisque la semaine dernière, dans le Nord, il y a eu un réseau de THT cassé, donc ça arrive, et une inondation liée à de fortes pluies, une marée, même pas un tsunami, puisqu'on a eu cet accident au Blayais en France. Donc, c'est pas une question que cet accident n'était pas imaginable. Il a été décrit dans des tas d'ouvrages, dont celui qu'on avait écrit en 1975, quand j'étais à la CFDT. Le problème, c'est que les gens, le public, imaginaient, pensaient que c'était impossible. C'est-à-dire que tout ça était tellement bien prévu que, il pouvait se passer n'importe quoi, il n'y avait pas d'accident. Et je crois que c'est là la difficulté, c'est que imaginer l'inimaginable, c'est presque condamner la chose. Puisque l'inimaginable, par nature, hein, on ne le trouvera pas.
Alors, il faut rappeler
et donc,
même
je
que...
pense qu'il y aura toujours une cause possible pour qu'il y ait une perte de refroidissement et que donc il y ait un accident majeur. Et en ce sens, enfin, moi, je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est-à-dire, autant cette affaire est tout à fait intéressante parce que c'est très compliqué, donc on peut chercher sans arrêt des parades de plus en plus complexes. Mais le fait même que ce réacteur fabrique des matières radioactives extrêmement dangereuses qui doivent être contenues dans cette cuve, je ne parle même pas de la question des déchets, parce qu'après après on ne sait pas trop quoi en faire, mais enfin même, je pense qu'il est impossible de garantir que quoi qu'il arrive, ça ne sortira pas.
Alors Thierry Charles, c'est quand même ça la question, est-ce que c'est vraiment raisonnable d'avoir construit une technologie à risque, hein, on le voit bien régulièrement, que l'on ne peut plus maîtriser finalement dès qu'il y a un accident.
Attendez, il faut quand même être prudent sur ce genre de choses. La démarche de sûreté, qu'est-ce que c'est ? C'est évaluer quel est le risque, en fait, d'abord d'arriver à éviter l'accident. En même temps, on ne dit pas qu'un accident ne peut pas arriver. Dans toute activité humaine, il y a toujours une part, je dirais, d'impondérable.
Oui, mais on a bien vu quand même pendant l'accident de Fukushima que les êtres humains étaient débordés par la technologie.
Oui, attendez. Il faut voir une chose, c'est que là, ce qu'on est en train de dire, on doit minimiser le risque. Minimiser le risque, ça veut dire notamment évaluer les circonstances qui pourraient conduire finalement à l'événement redouté qui est la fusion du cœur. Donc, qu'est-ce qu'on voit au Japon ? On a affaire à des questions liées au dimensionnement d'une installation par rapport aux agressions naturelles. Donc, première question, c'est quel niveau d'agression doit-on prendre en compte et quelles connaissances a-t-on pour les prendre en compte ? Donc, dans ce domaine-là, la démarche de dimensionnement qui est mise en œuvre, c'est partant de la connaissance historique, je prends le cas des séismes, hein, partant de la connaissance historique en matière de séisme et partant de la géologie, de la géotechnique de votre lieu, vous pouvez définir un niveau de séisme possible. Et en démarche de sûreté, vous prenez ce niveau de séisme, vous l'augmentez d'une certaine marge pour dimensionner l'installation. Et quand vous avez fait ça, c'est pas indéterminé. Vous allez périodiquement, en France c'est tous les 10 ans, réévaluer les données qu'il y a dans le domaine. La sûreté, ça repose sur 2 choses essentielles et fondamentales. C'est un, la connaissance. La connaissance, on l'obtient par la recherche. La recherche, c'est notamment la recherche sur les séismes, par exemple. Et également, deuxième point important, c'est sur le retour d'expérience, la connaissance des événements qui se passent pour s'améliorer.
On pourrait discuter des heures sur toutes les dispositions de sécurité qui sont prises, notamment pour les centrales nucléaires en France et dans d'autres pays du monde. La question, c'est est-ce qu'en soi, l'énergie nucléaire, aujourd'hui, n'est pas suffisamment dangereuse pour ne pas décider de l'arrêter ?
On tombe après, c'est une question d'acceptation sociétale. Donc vous avez par définition à avoir à la base une démarche technique, technologique de dimensionnement des installations, et vous avez besoin en parallèle d'avoir une démarche d'information, de porter à connaissance du risque. Il faut que les gens puissent se faire leur propre opinion. Ça, c'est fondamental. Chacun doit pouvoir juger en connaissance de cause s'il considère que c'est acceptable ou pas d'avoir une telle énergie.
Mais alors,
qu'en parallèle, tout le monde demande d'avoir de l'énergie, bien entendu, et de plus en plus quand on regarde la vie courante. Donc, c'est un peu schizophrénique. Les gens vont dire d'un côté, il me faut de l'énergie, et de l'autre...
En même temps, il n'y a pas que l'énergie nucléaire qui existe sur cette planète, mais c'est vrai que la question de l'acceptabilité, Bernard Laponche, est très importante, puisque, par exemple, selon un récent sondage du grand quotidien japonais Asahi Shimbun, 77% des Japonais aujourd'hui souhaiteraient sortir du nucléaire. Après, il y a souvent un décalage entre l'opinion publique et les décisions politiques.
Ce que vous dites est vrai. Le problème, c'est que, comme je pense qu'un certain nombre de gens étaient conscients de ce risque, finalement, on n'a jamais demandé l'avis des gens en expliquant réellement ce risque. Parce que je pense que pour faire chauffer de l'eau à 330 degrés...
Parce que finalement, ça sert à ça, une
centrale nucléaire. C'est ça que fait une centrale nucléaire. Avoir des machines de cette complexité et de ce niveau de risque, même si, et je vous l'accorde, il y a des gens qui travaillent pour améliorer, il n'empêche que les centrales qu'on a aujourd'hui, par exemple, qui sont quand même de la génération Fukushima, enfin c'est le modèle de cette époque-là.
Je veux dire en France, donc les centrales massivement construites dans les années 70.
En particulier les premiers modèles, c'est le modèle de Three Mile Island, qui n'est pas très différent du modèle de Fukushima. Bon, ces centrales-là, on sait bien que par conception, elles n'ont pas été conçues par rapport à la possibilité de rupture de cuve, par exemple, de rupture du circuit primaire. Bon, donc on peut se dire que par rapport à ça, on va prendre de nouvelles précautions, mais ce risque existe. Alors vous me direz, d'autres risques existent, mais enfin, entre le risque que présente une éolienne, ou même un champ d'éolienne par rapport au risque que présente le nucléaire, je pense que là, la comparaison, elle est quand même relativement facile si le risque nucléaire, c'est effectivement des régions entières contaminées, etc. Et donc, à un moment donné, il faut comparer l'avantage. Je fais avec des moyens tout à fait scientifiquement assez extraordinaires. Je fais chauffer de l'eau à 330 degrés par ce moyen-là. Est-ce que j'ai pas d'autres moyens de chauffer de l'eau à 330 degrés? Est-ce que j'ai pas d'autres moyens de faire de l'électricité? Qui serait moins risqué? Et quand on compare, voilà, cette comparaison me paraît conduire au fait que la complexité et le risque de cette technologie est trop élevé par rapport à ce qu'on en retire. Mais ça, c'est une appréciation de caractère énergétique et pas strictement lié à la sûreté nucléaire.
Voilà. Alors en tout cas, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, l'Italie et d'autres pays ont décidé de renoncer à l'énergie nucléaire. Alors l'industrie nucléaire a-t-elle encore un avenir? On en parle dans un instant. Namur dans C'est pas du vent sur RFI. Un an après le tsunami et la catastrophe nucléaire de Fukushima, nous voyons avec nos invités les leçons que nous avons tirées de cette catastrophe. Eileen Miyoko-Smith dirige depuis 1991 Green Action. C'est une association de défense de l'environnement japonaise. Elle milite depuis des années contre l'industrie nucléaire. Elle considère que cette crise est peut-être l'occasion de tourner la page.
Je pense que la plupart des gens avaient le sentiment que l'industrie nucléaire japonaise était sûre, même si je sais aujourd'hui que beaucoup de personnes n'avaient pas confiance. Mais ils se sentaient impuissants. Que voulez-vous faire seul face à la puissance nucléaire japonaise?
Au Japon, il y a différentes sources d'énergie. L'énergie nucléaire ne représente que 28%, donc on savait bien pourtant que ce n'était pas la seule source d'énergie, comme on peut l'avoir par exemple en France pour 75% de l'électricité.
Les Japonais croient tellement que leur pays est pauvre en énergie, que nous n'avons aucune ressource. Nous dépendons totalement de l'importation des combustibles fossiles. Donc, ils pensaient que le nucléaire était un mal nécessaire. C'est malheureux. Mais ce qui est vraiment passionnant aujourd'hui, c'est que nous pouvons sortir en douceur du nucléaire, car nous n'en dépendons plus massivement. C'est le résultat de la détermination de fermiers, de pêcheurs traditionnels, d'ONG, d'habitants des villes qui se sont battus contre la puissance nucléaire depuis les années 70. Grâce à eux, nous n'avons pas 80 centrales nucléaires. Nous n'en avons que 54.
80 nuclear power plants. We only have 54.
Et qu'est-ce qui a changé depuis Fukushima?
People realize it can happen to them.
Les gens ont réalisé que ça pouvait leur arriver. C'est vraiment vrai. Et maintenant, à travers le commerce de la nourriture, tout le monde est confronté à leur peur de manger des aliments radioactifs. Ce n'est plus seulement la question de savoir si vous êtes pro ou anti-nucléaire, mais il s'agit de prendre soin de votre famille, de préserver votre propre vie. C'est vraiment concret pour les gens. Et il y a des centrales nucléaires partout au Japon, donc tout le monde regarde la centrale à côté de chez lui et réalise que si cette centrale a un accident, leur vie peut basculer.
Et quel est l'avenir énergétique du Japon selon vous?
Ce qui est vraiment passionnant, c'est que nous pouvons peut-être empêcher le redémarrage des centrales nucléaires. Les technologies pour les énergies alternatives existent. C'est juste que nous n'avons pas la politique et les lois qui permettent de les mettre en place. Mais si nous arrivons à bloquer la machine nucléaire, il ne peut qu'en sortir de bonnes choses.
All the good things can happen and they already exist and in Europe it's already happening and so it can happen in Japan.
Regardez ce qui se passe en Europe. Beaucoup d'entreprises se lancent dans le business des énergies renouvelables. Ça pourrait très bien arriver au Japon. Le plus enthousiasmant, c'est que depuis l'accident, les Japonais ont réalisé qu'ils pouvaient réduire leur consommation d'énergie. Ça a été très difficile pour une métropole aussi immense que Tokyo de consommer moins d'énergie, surtout pendant l'été, parce qu'il fait chaud. Mais les entreprises n'ont pas eu le choix et finalement, la plupart d'entre elles ont été ravies de constater que leurs factures avaient baissé. Elles ne l'auraient jamais fait sans cette situation de crise.
Est-ce que vous pensez que le gouvernement pourrait redémarrer les centrales nucléaires?
The government is desperate to restart the plants in Japan.
Le gouvernement a très envie de redémarrer les centrales au Japon parce que ce sont des investissements très coûteux. La vraie motivation ne vient pas de l'envie de combler le manque d'électricité, mais d'éviter d'immenses pertes économiques aux grosses compagnies d'électricité s'ils ne peuvent pas redémarrer les centrales. En fait, ça détruirait économiquement ces entreprises et c'est pour cela qu'ils vont pousser au maximum pour les redémarrer.
They are going to push really, really hard to start those nuclear power plants up again.
Il aura fallu une catastrophe, finalement, pour qu'il y ait une prise de conscience au Japon. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à un pays comme la France qui continue à utiliser l'industrie nucléaire?
Well, I think the French people, because the country has such a big...
À mon avis, les Français pensent, parce que leur pays est très dépendant du nucléaire, que c'est impossible d'en sortir. Mais si un accident se produit, que va-t-il se passer? Toute votre histoire, votre culture, votre mode de vie, tout sera véritablement dévasté. Et là, vous vous retournerez et vous vous direz, c'est pire que tout, juste à cause d'une conception d'un mode d'énergie. Il est vraiment temps de changer ce programme. C'est vital, parce que ce que vous risquez de perdre est immense.
Because what you will lose is so huge.
Cela dit, si au Japon, actuellement, seulement 2 réacteurs sur 4 fonctionnent, le gouvernement japonais, Thierry Charles, a bien l'intention de relancer les centrales aujourd'hui.
À ma connaissance, oui, effectivement, l'objectif du gouvernement est de redémarrer la production d'électricité par voie nucléaire. Et actuellement, leur enjeu, c'est notamment en termes d'acceptation locale, puisque notamment les préfectures ont un droit de regard sur le redémarrage. Et donc, la question qui se pose pour eux, c'est d'arriver à retrouver une certaine acceptation s'ils veulent redémarrer les installations.
Est-ce que c'est envisageable que la population japonaise accepte ?
L'avenir le dira, mais il est clair que dans le domaine du nucléaire, puisque à la base vous avez le choix d'un gouvernement de développer tel type d'énergie, c'est des choix de politique énergétique de ce point de vue-là.
L'énergie nucléaire produisait 28% de l'électricité japonaise.
Oui, tout à fait, une petite trentaine, tout à fait. Donc c'était le choix du Japon qui dispose par ailleurs de peu d'énergie sur son territoire, donc ils ont un certain mix énergétique et ils ont fait une part, comme vous dites, d'environ 30% au nucléaire. Bon, c'est un choix, mais après, si on fait ce choix-là, il faut, bien entendu, mettre en place un niveau de sûreté qui va avec. Et quand on dit ça, il y a en fait 3 conditions essentielles. Il faut un exploitant qui soit responsable et qui ait des moyens, en qui on puisse avoir confiance.
Oui, c'était TEPCO.
Au Japon, il y avait TEPCO. Mais je vous donne les conditions essentielles. Il faut un exploitant responsable et qui ait les moyens d'assurer la sûreté. Et il faut en face un système de sûreté puissant, compétent, à même de faire le contrôle du système. Et ça ne suffit pas. Il faut en plus une démarche de transparence pour que les citoyens aient accès à ce qui se fait, le risque nucléaire, qu'est-ce que c'est, et le comprendre. On retombe un peu sur ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut que les personnes puissent se faire leur propre opinion du domaine.
Moi, je voulais dire un mot sur le Japon, l'énergie au Japon, parce que on parle du Japon parce qu'il y a Fukushima, et donc on parle du nucléaire. Mais le nucléaire, bon, pour simplifier, 25%. L'électricité dans la consommation d'énergie finale des Japonais, c'est 20%. Donc la contribution du nucléaire à la consommation d'énergie finale des Japonais, c'est 5%. Donc le problème énergétique japonais, comme d'ailleurs le problème énergétique de beaucoup de pays, c'est par rapport aux réserves énergétiques fossiles, au changement climatique, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Même un pays comme la France, qui a 75% de nucléaire, donc aucun pays ne peut imaginer arriver à ça, ça représente 17% de la consommation d'énergie finale. Et ça veut dire que la politique qu'on peut aborder n'est pas forcément uniquement centrée sur la question nucléaire, c'est qu'il faut économiser l'énergie. On gaspille l'énergie en France, au Japon, partout. Bon, et vous comprenez bien que si vous réduisez la consommation d'énergie, et il faut la réduire dans des proportions importantes pour les raisons précédentes, hors question nucléaire, vous avez un choix beaucoup plus grand sur vos sources d'énergie. Bon. Et là-dedans, vous pouvez décider ou non de vous dire, écoutez, le nucléaire, je m'en passe. Mais au Japon, c'est 5%. C'est pas 25 ou 30, parce qu'on a tendance à assimiler énergie et électricité.
Alors, en tout cas, selon l'Agence internationale de l'énergie, hein, Thierry Charles, 300 nouvelles centrales devraient être construites dans le monde durant les 20 prochaines années. Donc, malgré les accidents de Three Mile Island aux États-Unis, Tchernobyl ou Fukushima, le nucléaire semble encore avoir de l'avenir.
Eh bien, les problématiques sont différentes selon les pays. Là, on parle surtout, notamment dans les constructions importantes de réacteurs, des pays émergents,
notamment
la Chine, l'Inde, qui ont un fort développement. Actuellement, c'est un développement de l'ordre de 7 à 9% par an. C'est énorme. Et donc, ça conduit à avoir une demande énergétique très, très élevée.
Cela dit, la Chine a investi 5 fois plus dans les énergies renouvelables qu'elle n'a investi dans le nucléaire.
Bien sûr. Mais le problème de la Chine, c'est d'avoir de l'énergie. Et la question, c'est comment l'avoir. Comment l'avoir, il utilise toutes les possibilités, bien entendu. Hein. Actuellement, la Chine, ça consomme 1,5 milliard, je crois, de tonnes de charbon par an. C'est extraordinaire. C'est très, très élevé. Donc, ils n'ont pas le choix. Il faut avoir de l'énergie. Et ils font de l'éolien, ils font du solaire, ils font du nucléaire, ils recherchent et ils font également du gaz. Donc, ils recherchent toutes les voies pour avoir de quoi leur permettre de développer leur pays.
Alors pour conclure, messieurs, rapidement, un petit mot chacun. Est-ce que Fukushima va rester dans l'histoire, selon vous, Bernard Laponche?
De toute façon, oui. De même façon que Tchernobyl ou que d'autres grands accidents, l'accident pétrolier du golfe du Mexique, par exemple, je pense que ça marque cette civilisation qui, finalement, a bousillé... enfin, je ne dis pas du tout que c'est volontaire, mais l'état du golfe du Niger, c'est une honte à cause de l'exploitation pétrolière. Donc, il y a comme ça des comportements des humains par rapport à eux-mêmes et par rapport à la nature qui marqueront le XXe siècle et le début du XXIe tant qu'on n'aura pas changé. Mais en ce qui concerne l'histoire du nucléaire, soit que le nucléaire continue et on peut espérer qu'il améliore la sûreté, mais faites attention aux nouvelles générations parce que, à mon avis, celles qui sont prévues ne sont pas très satisfaisante.
C'est un autre débat, on ne va pas faire un débat sur le PR maintenant.
Donc je pense que ça marquera, y compris dans l'histoire nucléaire, soit qu'elle s'arrête, soit qu'elle continue.
Thierry Charles ?
Tout à fait, pour nous aussi, il y avait un avant Fukushima, il y aura un après Fukushima, et on a été les premiers dans le cadre des examens de sûreté à rechercher un moyen de compléter la démarche de sûreté pour justement prendre en compte des événements qui seraient au-delà de ce pourquoi on est déjà dimensionné.
Merci beaucoup, messieurs. Si vous voulez continuer cette conversation ou réagir à l'émission, retrouvez-nous sur notre réseau social ou écrivez-nous à cestpasduvent@rfi.fr. Merci à Sophie Janin pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. La semaine prochaine, nous parlerons des enjeux de l'accès à l'eau potable à l'occasion du 6e Forum mondial de l'eau qui va se dérouler à partir de demain, lundi, à Marseille. D'ici là, prenez soin de vous et à samedi prochain, même planète, même heure.